France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Ce qui détermine la température, le chaud ou le froid, c'est l'agitation des atomes. Les températures dans lesquelles nous vivons signifient des états d'agitation, de mouvement constant. Plus il fait froid, moins il y a de mouvement. Et ce, jusqu'au zéro absolu, qui devrait amener les atomes à une immobilité parfaite, à l'absence totale de mouvement et d'agitation. C'est ce but que poursuivent les physiciens, produire artificiellement cet état pour pouvoir enfin l'observer et tirer les conséquences de cette observation. S'il est facile de lire la quête du zéro absolu comme une compétition entre les égaux des grands physiciens et de leurs équipes, les retombées de ces expériences peuvent être immenses et surprenantes. C'est grâce à la génération de très basses températures en laboratoire que les physiciens américains Eric Cornell et Carl Wieman réussissent en 1995 à obtenir un condensat de Bose-Einstein. Cette théorie, énoncée en 1925, prédit qu'à une très basse température, un groupe d'atomes peuvent se placer à la même énergie, dans le même état quantique, formant une onde quantique collective géante, le dit condensat de Bose-Einstein. Dans cet extrait d'un numéro d'Archipel Science de Stéphane Delie-Georges et Anita Castiel, c'est le physicien français Alain Aspé qui vient éclairer les enjeux entourant la quête du zéro absolu. S'il est déjà, en 1991, au moment de cette émission, un physicien connu par ses pairs pour la qualité et la puissance novatrice de sa recherche, il est bon de rappeler qu'Alain Aspé reçoit en 2022 le prix Nobel de physique, pour ses expériences sur l'intrication quantique et la violation des inégalités de Bell. C'est donc un futur prix Nobel qui explique ici avec clarté et précision les interactions complexes du froid et de la mécanique quantique. Une émission diffusée pour la première fois le 26 mars 1991.
Bonsoir Alain Aspé.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Et ma foi, fort bien.
Froidement ?
Non.
Chaudement dans le studio.
Voilà.
Alors Alain Aspé, vous êtes physicien au Collège de France et au laboratoire de la rue Laumont, qui appartient à l'École normale supérieure de Paris. Et vous jouez un petit jeu de physique, vous êtes d'ailleurs quelques-uns parmi le monde à jouer ce petit jeu qui est d'obtenir la matière la plus froide qu'il soit.
Oui, à vrai dire, ce petit jeu a commencé il y a longtemps. Je pense que ça remonte au début du siècle, où les physiciens ont essayé de faire des réfrigérateurs de plus en plus efficaces, qui aillent vers des températures de plus en plus basses. Et donc, les méthodes utilisées à cette époque consistaient à produire du froid en évaporant des liquides divers. Et puis, depuis une dizaine d'années, il y a une deuxième approche pour refroidir la matière, qui est l'utilisation des lasers.
D'ailleurs, un nom, c'est un physicien qui est célèbre, l'un des premiers, je crois, à avoir obtenu 4,2 degrés K, c'est monsieur Kamerlin Gonesse.
Et oui, c'était
grand physicien
aux Pays-Bas.
Oui, et c'était en 1908.
Oui.
C'était avec de l'hélium, je ne me souviens plus.
Oui, certainement.
Oui. Et puis, ben, il a amélioré son record puisqu'il a obtenu en 1926 0,7 degrés K.
Oui, je n'aurais pas su dire la valeur exacte du record ni la date, mais vous avez des bonnes fiches.
Alors, la température, le zéro absolu, sur l'échelle de Kelvin. Qu'est-ce à dire, Alain Aspé, d'abord ? Qu'est-ce que c'est que la situation ou l'état de la matière quand on est proche de ce degré zéro de l'échelle Kelvin ?
Eh bien, il faut d'abord revenir au concept de température.
Oui.
Et pour faire vite, la température, c'est l'agitation. La matière ordinaire, la température ordinaire, est agitée, même si nous ne le voyons pas toujours. Par exemple, l'air de cette salle est constitué de molécules d'oxygène, d'azote, pour l'essentiel. Et ces molécules se déplacent extrêmement rapidement, à des vitesses de plusieurs centaines de mètres par seconde. En permanence, elles s'entrechoquent. Pour caractériser cette agitation, on a un concept qui est celui de température, dont c'est un concept un petit peu différent de celui que nous avons lorsque nous disons « il fait chaud ou il fait froid ». Mais en réalité, on se rendrait compte, si on pouvait mesurer ces vitesses, que lorsqu'il fait plus froid, eh bien, ces vitesses d'agitation sont un peu plus faibles. Et on peut se demander que se passe-t-il quand il fait de plus en plus froid. Eh bien, quand il fait de plus en plus froid, effectivement, ces vitesses deviennent de plus en plus petites et on se rend bien compte que si on veut aller vers une température de plus en plus basse, on va buter sur un mur. Le mur, c'est celui qui consiste à ce que la matière soit immobile, arrêtée. Si nous arrivons à arrêter toutes les molécules de cette pièce, eh bien, nous serons arrivés au zéro absolu. Alors, bien entendu, c'est une quête difficile.
Degré zéro absolu sur l'échelle Kelvin, ça correspond à combien en degrés centigrades ?
Alors, on peut prendre le problème à l'envers. La véritable échelle, l'échelle absolue, c'est l'échelle Kelvin. Alors, la température de fusion de la glace, c'est 273,15 degrés Kelvin. En d'autres termes, en degrés Celsius, le zéro absolu, c'est moins 273,15.
Pour fixer les choses et pour se donner des représentations de sens commun, parce que quand on scrute la matière dans les états où vous la scrutez, les choses sont bien différentes. Mais pour avoir une image de l'agitation thermique d'un corps, il suffit de penser à l'eau qui bout. On voit bien que là, elle est extrêmement agitée, cette matière. Et dans le cas de la glace, on voit bien que les choses se sont solidifiées, arrêtées. C'est simplement pour donner une intuition correspondante.
Oui, si. J'aurais quelques objections à pousser trop loin cette image. Parce que dans la glace, en réalité, les molécules d'eau sont liées les unes aux autres par des liaisons. Mais autour d'une position moyenne, toutes ces molécules vibrent. Et en réalité, lorsque nous avons un solide, il ne faut pas s'imaginer que les divers constituants du solide sont immobiles. En réalité, ils sont animés de vibrations en permanence. Et encore une fois, refroidir le solide, ça consiste à diminuer l'amplitude de ces vibrations. Et aller vers le zéro absolu, c'est faire que finalement, chacun des noyaux, des atomes ou des molécules qui constituent un solide reste tranquille à sa place et ne bouge plus.
Ne bouge presque plus.
Donc dans la glace, à zéro, en fait, les molécules d'eau bougent beaucoup.
Oui, tournent vite, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut caractériser encore cette situation d'une sorte de repos absolu ? Est-ce que c'est une situation qui est analogue à un cristal parfait, fixé, figé ? Est-ce que c'est parce que pour beaucoup, l'agitation, l'une des représentations qu'on a de la thermodynamique, c'est une agitation désordonnée ?
Oui, alors prenons l'exemple du cristal. Donc un cristal, par exemple le cristal de chlorure de sodium, le sel marin, le sel de cuisine, eh bien c'est un empilement régulier, un atome de chlore, un atome de sodium, qui sont disposés régulièrement au sommet de cubes. Et donc à température ordinaire, comme je le disais, eh bien chacun de ces atomes vibre autour d'une position moyenne. Et il est clair que les divers atomes vibrent. Et cela représente une sorte de désordre, puisque entre deux atomes, la distance est plus petite que la distance moyenne à un certain instant, et un peu plus tard, elle sera plus grande. Et lorsqu'on va vers le zéro absolu, eh bien effectivement, chaque atome va aller vers une position moyenne qui sera de mieux en mieux définie, et les distances entre les divers atomes vont être de plus en plus identiques, si j'ose dire.
Alors vous signaliez tout au début de notre conversation qu'il y avait donc deux grandes voies pour obtenir ces records du froid, on peut les appeler comme ça, ça ne vous gêne pas l'aspect qu'on les appelle comme ça.
Oui, bien sûr.
Ces records du froid. Donc, est-ce qu'on peut caractériser maintenant peut-être la première, celle que vous ne suivez pas, donc de ces méthodologies, avec un peu plus de détails ?
Oh, rentrer dans les détails, d'abord, ce n'est pas dans mon domaine de compétences, mais l'idée est l'idée très simple que l'évaporation produit du froid. Si donc je prends un liquide et je le laisse évaporer, ça produit un petit peu de froid. Si maintenant je pompe et j'accélère l'évaporation à l'aide d'une pompe à vide qui accélère cette évaporation, eh bien ça va produire de plus en plus de froid. Et le jeu consiste ensuite à utiliser des liquides de plus en plus efficaces. Bien sûr, si je prends de l'eau, par exemple, pour produire, eh bien, une fois que l'eau va elle-même être congelée, je vais avoir du mal à continuer à l'utiliser. Donc, il va falloir que je trouve des liquides qui ont des températures de congélation de plus en plus froides et que je trouve des méthodes de plus en plus raffinées. Et également, il faut bien le dire, de plus en plus lourdes. Ce qu'on appelle les réfrigérateurs à dilution à l'heure actuelle sont des réfrigérateurs où le liquide sur lequel on pompe pour produire du froid est un mélange d'hélium, des deux variétés d'hélium. Et il faut des pompes assez gigantesques pour pomper extrêmement vite et on arrive ainsi à des températures qui sont en dessous du millikelvin. Alors le millikelvin, Dire qu'on est à 1 millikelvin, ça veut dire qu'on est arrivé à 1 millième de degré du zéro absolu. Et avec ces techniques de réfrigérateur à dilution, on arrive à aller nettement en dessous du millikelvin et on arrive ainsi à refroidir des échantillons solides tels que le morceau de cristal ou de métal dont nous parlions précédemment.
Quelles sont les équipes qui illustrent bien cette voie ?
Alors il y a des équipes, il y a la tradition aux Pays-Bas, il y a une très forte équipe à Bayreuth, en Allemagne, j'en oublie certainement.
Les Japonais, c'est plutôt avec les lasers ?
Oh, ils participent à toutes, je pense qu'ils participent aux deux techniques, comme toujours, ils placent des pions dans toutes les techniques.
Ils sont comme les araignées, c'est un petit peu ubiquitaire alors en physique. Hein.
Si vous voulez.
Bon, on va arrêter nos calomnies là concernant les Japonais, surtout qu'il y a un amateur de Japonais là, en la personne d'Anita Castiel. Alors, quand on lit les comptes rendus de vos expériences, on est évidemment immédiatement étonné parce que pour obtenir du froid, vous utilisez des lasers. Et on a tout de suite le sentiment que si on met son doigt sous un laser, ça brûle.
C'est vrai, si on met le doigt sous un laser, ça brûle. Mais un faisceau laser, ça peut brûler. Mais quand on a fait un peu de physique, on sait aussi qu'un faisceau laser, c'est très ordonné. Or, l'ordre, c'est aussi les basses températures, puisque les hautes températures, c'est le désordre. Donc, peut-être que c'est un petit peu moins choquant, une fois qu'on a réalisé qu'un faisceau laser, c'est quand même des photons très bien ordonnés. Alors, comment fait-on pour refroidir des atomes avec un laser ? D'abord, avec un laser, pour l'instant, en tout cas, on ne refroidit pas un morceau de solide comme je l'évoquais tout à l'heure. Ce qu'on va refroidir, c'est plutôt une vapeur atomique, c'est-à-dire un milieu beaucoup plus dilué. Donc déjà, ces méthodes vont conduire à des refroidissements de quantités de matière nettement plus petites. Mais il existe ce qu'on appelle la pression de radiation. La pression de radiation, c'est le fait que la lumière est capable d'exercer une pression, même si elle est très faible, sur les objets en général et sur les atomes en particulier. Et l'idée qui a été développée dans ces 10 dernières années et qui préside au refroidissement par laser, c'est que lorsque j'ai un atome en mouvement, et que j'envoie un faisceau laser, que j'éclaire cet atome avec un faisceau laser, eh bien la force, la pression de radiation exercée par le faisceau laser sur l'atome va dépendre de la vitesse. Et supposons que nous arrivions à nous mettre dans une situation où la force est d'autant plus grande que l'atome va plus vite, et d'autant plus faible que l'atome va plus lentement. On voit que l'atome qui va vite trouve face à lui une pression de radiation très forte, donc il ralentit, et plus il ralentit, plus la pression de radiation diminue, et nous arrivons à ajuster les fréquences des faisceaux laser pour qu'en définitive, on tende vers une situation où l'atome au repos ne sentira plus aucune force, alors que s'il était en mouvement, il sentirait une force qui tendrait à ralentir son mouvement. C'est ce qu'on appelle une friction, on réalise une friction, un freinage à l'aide de la lumière.
J'avais envie de vous proposer le mot, donc on freine ces particules avec la lumière,
voilà,
avec le flux lumineux.
Oui.
Il y a quelques années maintenant, le temps passe, j'avais évidemment visité l'expérience que vous conduisiez à Orsay autour des inégalités de Bell et concernant donc des propriétés particulières de la théorie quantique. Et on avait fait des photos d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et il y avait donc un grand laser avec les tubes, avec les deux colonnes. C'était un appareillage très minutieux qui donnait un sentiment de mécanique, d'horlogerie presque, en tout cas de grande précision comme toujours, mais... C'était pas le CERN, c'était pas ces énormes machines, c'était une jolie physique du point de vue instrumental. Est-ce que ça a la même silhouette que vous faites rue Laumont ?
Très exactement. Il s'agit toujours du même genre de physique à la même échelle. C'est une échelle où deux ou trois physiciens font tourner l'expérience et en réalité, chacun des physiciens est capable de faire marcher n'importe lequel des appareils qui est sur cette expérience. Et c'est toujours une expérience qui est centrée autour d'une enceinte à vide, c'est-à-dire une espèce de cocotte minute, mais où on a fait le vide au lieu d'augmenter la pression et dans laquelle nous pouvons donc avoir des vapeurs d'atomes qui se déplacent librement. Et puis, ces enceintes à vide ont des fenêtres. À travers ces fenêtres, nous faisons entrer des faisceaux laser. Et c'est donc ainsi que nous pouvons agir sur les atomes. Si nous pensons à l'expérience une expérience typique de refroidissement d'atomes par laser, eh bien, elle comprend d'abord une première section qu'on appelle un jet atomique, c'est-à-dire un pinceau d'atomes qui ont été donc préparé à la température ambiante, qui se déplace à plusieurs centaines de mètres par seconde. Et suivant une direction précise, on a sélectionné ce jet d'atomes à l'aide de diaphragmes. On a donc une enceinte qui fait un ou deux mètres de long. Et puis, eh bien, on envoie un faisceau laser qui se propage en sens inverse des atomes et qui agit sur ces atomes, qui les freine. Et ces atomes sont donc progressivement ralentis et vont avoir tendance à s'arrêter. Mais ils ont encore une agitation. Si on se contentait de les observer tels qu'ils ont été arrêtés, ils auraient encore une vitesse de quelques dizaines de mètres par seconde, correspondant à quelques degrés Kelvin, plusieurs degrés Kelvin. Alors à ce moment-là, eh bien, on les éclaire dans toutes les directions avec 6 faisceaux laser. Donc deux faisceaux laser dans des directions opposées suivant chacun des 3 axes de l'espace. Et donc nos atomes qui ont été arrêtés sont éclairés par 6 faisceaux laser, dont les longueurs d'onde sont choisies judicieusement pour que se produise le phénomène de freinage dont je parlais tout à l'heure. Oui.
Alors je suppose bien évidemment que ces équipes de physiciens analogues à votre travail, ces équipes analogues à la vôtre, ne font pas ça simplement pour le goût du record. Il y a bien évidemment la volonté de trouver à très basse température des phénomènes inattendus, comme ont pu l'être, on pourrait en dire un mot d'ailleurs, comme ont pu l'être la supraconductivité ou la superfluidité, qui étaient des phénomènes inattendus lorsqu'on les a découverts.
Oui, alors bien sûr, mais ceci, par définition, l'inattendu, nous ne le connaissons pas encore.
Et on ne peut pas le subodorer avec exactitude.
Et lorsque Kamerlingh-Onnes essayait d'atteindre des températures de plus en plus basses, il ne savait pas qu'il obtiendrait la supraconductivité. On peut toujours espérer donc obtenir l'inattendu lorsqu'on va dans des situations qui sont de plus en plus éloignées des situations que nous observons habituellement. Avant de parler de ces possibles applications expérimentales, il faut se rendre compte que si j'ai présenté ce phénomène de freinage d'une façon extrêmement simple, il faut voir qu'en réalité, utiliser le plus judicieusement possible les faisceaux laser pour obtenir des températures de plus en plus basses nous conduit à reconsidérer en permanence un phénomène qui est apparemment aussi bien connu que l'interaction entre les atomes et la lumière. Donc notre compréhension de ce phénomène-là, je dirais, s'affine à chaque fois que nous tentons de l'utiliser d'une façon plus performante. Et je dois dire que ces dernières années, peut-être que notre principal travail de recherche fondamentale a consisté précisément à comprendre de mieux en mieux cette interaction entre la lumière et les matières, avec comme objectif d'obtenir des températures les plus basses possibles. Alors maintenant, je reviens à votre question. Est-ce que on peut espérer avoir des retombées en recherche fondamentale ? Alors, encore une fois, si on connaissait l'inattendu, ce ne serait plus inattendu.
Mais ce ne serait pas drôle.
Ce ne serait pas drôle, mais néanmoins, on peut lancer quelques pistes. Pourquoi est-ce que Kamerlingh-Onnes et les autres ont observé la supraconductivité ou la superfluidité ? Eh bien, c'est parce que à basse température, la matière a tendance à avoir des comportements de plus en plus quantiques, si j'ose dire. Et la raison... Une raison pour laquelle nous pouvons espérer observer des comportements quantiques, c'est que on sait qu'en principe, tout objet devrait être décrit par la mécanique quantique, par la mécanique ondulatoire, et à tout objet, on devrait associer une longueur d'onde qui va caractériser ce caractère ondulatoire, la longueur d'onde de De Broglie. Et la longueur d'onde de Broglie est inversement proportionnelle à la vitesse. Donc, qui dit température basse dit vitesse faible, dit donc grande longueur d'onde de Broglie. Alors, que veut dire grand et petit ? À température ordinaire, la longueur d'onde de Broglie associée à un atome est certainement beaucoup plus petite que l'angström, c'est-à-dire plus petite que la taille de l'atome lui-même. Autrement dit, l'atome a une température ordinaire nous apparaît vraiment comme une boule de billard, parce que le paquet d'ondes, l'onde qui va le décrire, est plus petite que la taille de l'atome lui-même. Par contre, si nous allons à des températures assez basses, le paquet d'ondes, l'onde de la mécanique quantique, va avoir une extension nettement plus grande que l'atome. 1000 fois, 10 000 fois plus grande que l'atome lui-même. Dont l'atome qui nous apparaissait comme une boule de billard va maintenant apparaître comme une sorte de nuage avec l'onde qui l'accompagne. Et on sait que ceci est une situation favorable pour que certains phénomènes quantiques puissent se produire. Alors il y a la quête du Graal qui est ce qu'on appelle la condensation de Bose-Einstein, prédite par Einstein il y a bien longtemps.
Bose, donc, c'est le physicien aussi, on peut peut-être rappeler que c'est un physicien indien.
C'était un jeune physicien indien, génial, qui avait écrit à M. Einstein pour lui faire part d'une idée. Et M. Einstein avait trouvé cette idée très bonne et lui-même avait eu une idée analogue. Et ils ont travaillé ensemble.
Et la statistique de ce monsieur, c'est une des classes. Maintenant, les particules qui correspondent à ça s'appellent des bosons. Oui. Et sont une des grandes, deux grandes classes des constituants de la matière.
Voilà, et alors ces bosons, à très très basse température, devraient avoir une propriété étrange qui consiste à ce qu'ils se précipitent tous dans le même état quantique, un peu comme les moutons de Panurge. Et bon, il est probable que cette condensation de Bose-Einstein joue un rôle dans la supraconductivité ou dans la superfluidité. Néanmoins, la condensation de Bose-Einstein au sens strict n'a pas été observé probablement que de façon indirecte, et si en allant vers des très basses températures on pouvait observer cette condensation de Bose-Einstein, il est clair que c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de physiciens. Oui. On est encore loin d'y être, il y a bien des obstacles à franchir.
On pourrait peut-être d'un mot rappeler quand même ce que c'est que la supraconductivité. C'est quand le corps est à très basse température, la conduction électrique devient infinie et n'oppose plus de résistance à celle qu'on la connaît.
Oui, ça aboutit à ces choses tout à fait amusantes. Si j'ai un anneau de cuivre, un métal qui va pouvoir avoir de la supraconductivité, eh bien, si j'ai lancé un courant à l'intérieur, ce courant va se maintenir pendant des durées qui peuvent...
Infinies.
En tout cas, on l'a observé pendant des années, sans aucun générateur pour maintenir le courant.
Oui. Et puis la superfluidité, c'est, on le voit d'ailleurs souvent quand on va rue Lomont, quand on peut avoir de l'hélium, on voit que le liquide ne tombe pas mais remonte le long du bocal.
Oui, parce qu'il a une fluidité extrêmement grande et donc il peut se propager sans aucune résistance par capillarité le long des parois.
Alors, indépendamment de ces applications fondamentales, comme vous les désignez à l'aspect, il y a aussi, peut-être assez rapidement, la possibilité, en utilisant le césium, je crois, d'avoir là des retombées, mais quasiment pratiques.
Oui, alors ça, c'est certainement quelque chose de très important. C'est l'utilisation du refroidissement radiatif sur les atomes de césium. Bon, vous savez que le temps à l'heure actuelle est défini par ce qu'on appelle l'horloge atomique de césium. On regarde une transition entre deux niveaux du césium. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on compte les oscillations qui sont produites par l'atome de césium placé dans une certaine circonstance. Et donc, il s'agit d'une horloge, mais d'une horloge électromagnétique, si j'ose dire, ou atomique. On dit horloge atomique. Alors, chaque fois qu'on fait des mesures de temps, on voit bien que la limitation fondamentale, c'est le temps d'observation. Si j'observe un pendule qui bat une fois par seconde, il est clair que si je peux l'observer 1000 secondes, j'aurai sûrement plus de précision sur sa mesure de période que si je ne peux l'observer que pendant 10 secondes. Donc, on souhaite pouvoir observer les atomes de césium le plus longtemps possible. Pourquoi ne peut-on pas les observer longtemps à l'heure actuelle ? Parce qu'ils vont vite, ils vont à 300 mètres par seconde. Si donc nous arrivons à les refroidir, donc à abaisser leur vitesse à quelques centimètres par seconde, ce qui est l'état du record, nous pourrons les observer beaucoup plus longtemps. Et si nous pouvons les observer beaucoup plus longtemps, nous aurons une meilleure précision sur la mesure de leur période. En définitive, ces atomes pourront constituer l'horloge fondamentale avec une précision accrue. Alors vous allez me dire à quoi bon ?
Eh bien, il y a plein de raisons à ça d'obtenir des.
Alors il y a effectivement plein de raisons. Alors à l'heure actuelle, on parle de précision de 10-13. Alors qu'est-ce que ça veut dire 10-13 ? Ça veut dire que l'incertitude sur la mesure du temps, c'est une fraction dont le numérateur est 1 et dont le dénominateur est un 1 suivi de 13 zéros. Alors pour fixer les idées, si l'homme de Cro-Magnon avait eu une horloge atomique, eh bien la dérive de sa montre atomique à césium depuis l'âge de l'homme de Cro-Magnon aurait été inférieure à une seconde. On pourrait se dire que ceci est bien inutile. Eh bien, de façon étrange, on a besoin de précisions aussi grandes que ça. Par exemple, pour la navigation par satellite, par exemple, pour les télécommunications à haut débit, le nouveau réseau numérique de France Télécom est synchronisé par des horloges atomiques à césium. Donc, à l'heure actuelle, on utilise toutes les possibilités des horloges à césium. Il est temps de se préoccuper de la prochaine génération où on améliorera encore la précision. Et il est à peu près certain que les atomes ultrafroids vont jouer un rôle important.
Alors vous me disiez aussi que vous étiez intéressé par un développement possible, c'est d'obtenir ces manipulations, si je puis dire, ou cette situation expérimentale en microgravité.
Oui, alors ça c'est évidemment une des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Quand on fait de la physique atomique, les atomes vont à plusieurs centaines de mètres par seconde. Quand quelque chose va à plusieurs centaines de mètres par seconde, la pesanteur ne joue pas un grand rôle, ça ne courbe pas beaucoup les trajectoires. Quand vous commencez à avoir des atomes qui vont à quelques centimètres par seconde, il est clair qu'on ne peut plus négliger la pesanteur. Et si je reprends le problème de l'horloge à césium, supposons que j'ai mon assemblée d'atomes de césium, je voudrais les observer pendant une seconde, deux secondes, trois secondes. En réalité, je ne peux pas parce qu'ils tombent. Ils sortent de mon champ d'observation, c'est non riche. Pas à cause de leur agitation propre, mais ils tombent. D'où l'idée, eh bien, il faut aller se mettre en apesanteur. Alors pour l'instant, nous avons un programme avec le CNES où nous essayons de réaliser des expériences en microgravité dans un avion qui, vous savez, monte et fait une parabole et on a une vingtaine de secondes pour faire une expérience. Et puis l'avion peut répéter cette expérience et il n'y a aucune limitation au nombre de fois où on peut répéter cette expérience du point de vue des atomes qui le supportent assez bien. Par contre, les expérimentateurs, en général, crient grâce au bout d'une vingtaine d'évolutions.
Parce qu'ils sont en apesanteur avec tous les guillemets qu'il faut.
Oui,
est-ce que
oui,
c'est
oui.
dur à installer un tel appareillage dans un avion qui demande quand même de l'ajustement, qui demande du calibrage tellement précis?
Oui, il est certain que ça pose des contraintes particulières. Il y a les vibrations, il y a les changements de température. Donc, il faut concevoir les expériences d'une façon différente. Mais il y a des spécialistes du spatial qui sont là pour apporter leur contribution et expliquer comment il faut modifier l'expérience.
On peut imaginer qu'une telle expérience, c'est assez beau. Bonsoir, Avelle Guader, c'est assez beau, non, de s'occuper de faire du froid comme ça au laboratoire Hulomont et qu'on puisse mettre tout ça dans un avion pour faire des horloges ultra précises, non?
Oui, il n'y a plus grand chose de vivant à cette température-là.
Oui, mais on peut imaginer que ce soit une expérience qui sera développée en quelle année avec le CNES?
Ah, le projet est en cours, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des vols qui ont eu lieu. On peut penser que l'étude des atomes ultrafroids va avoir lieu dans l'année qui vient. Mais d'ici quelques années, si ce programme débouchait, s'il s'avérait que la microgravité est effectivement la voie vers des horloges nettement plus précises, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas développer une telle horloge en satellite. Ceci n'est pas une idée du tout farfelue. Il y a d'ores et déjà des horloges à césium en satellite pour la navigation par... la navigation, justement, à partir des satellites. Et donc, si les horloges en satellite doivent être plus précises que celles qui sont sur la Terre, eh bien, l'horloge parlante sera installée sur un satellite.
À l'aspect, vous montez dans l'avion ?
Pas encore. mes collègues qui ont essayé étaient un peu verts quand ils sont ressortis. Thank you.
C'est Archichep, on désannonce les morceaux à l'aspect dans cette émission de musique. Et le titre de cet album, c'est Blasé. Anita Castiel, vous êtes aussi spécialiste des questions du froid. Une petite question pour Alain Aspect.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Anita.
Bonsoir Alain Aspect.
Bonsoir.
Comment avez-vous pu mesurer de telles températures?
Si je vous disais que je prends un thermomètre et que je le mets au milieu des
atomes, vous ne croiriez pas.
Vous ne croiriez pas, vous auriez raison. Eh bien, en fait, nous revenons à la définition. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la température, c'est la vitesse. Il suffit de mesurer la vitesse. Donc, nous pouvons voir passer les atomes en les éclairant avec des faisceaux laser. Et lorsqu'ils passent dans le faisceau laser, ils émettent des photons. Donc, nous pouvons voir passer les atomes. En voyant passer les atomes, on mesure le temps qui sépare le passage en deux points dont on connaît la distance, et on revient à la méthode élémentaire.
Mais je suppose que la gravité doit intervenir là-dessus. Les vitesses sont très, très faibles.
Bien entendu. Alors,
petite correction.
Grosse correction.
Oui.
Si je vous reparle de l'expérience tout à l'heure où nous avons freiné les atomes de césium, eh bien nous les lâchons, ils tombent à cause de la gravité, nous regardons à quels instants ils arrivent en bas. Si leur vitesse initiale était nulle, ils seraient tous arrivés en même temps. Comme ils n'arrivent pas tous en même temps, on a une dispersion sur les temps. La mesure de cette dispersion sur les temps nous renseigne sur la distribution des vitesses initiales. Je pense que le programme de Terminal C doit permettre de répondre à la question.
À l'aspect maintenant, on va passer aux questions personnelles qui dépendent plus de la Terminal C. Vous avez fini ces belles expériences avec votre équipe sur le théorème de Bell et ses inégalités en quelle année?
Ce que je sais, aux environs de 1983.
83. Ce qui veut dire qu'à partir de 84 ou de 85, vous étiez à refroidir la matière.
Oui, nous avons commencé à monter le groupe de refroidissement par laser de l'École normale supérieure auquel j'appartiens actuellement.
Alors, quand vous avez fait la première de ces expériences avancées, vous étiez absolument passionné. C'était une très belle expérience et vous étiez tout à fait passionné. Comment est-ce qu'on passe des inégalités de Bell au problème du zéro absolu sur l'échelle Kelvin?
Oh, ça, c'est une question très personnelle. Alors, en ce qui me concerne, lorsque j'ai eu rempli le programme que je m'étais fixé, à savoir réaliser un certain nombre d'expériences sur les inégalités de Bell qui me semblaient intéressantes, évidemment, j'ai dû admettre, comme tout le monde, à la fin, que ces expériences n'étaient pas idéales, mais je pensais que j'avais apporté ma pierre à cette longue série d'expériences et je n'ai pas eu envie de raffiner cela jusqu'à la fin de ma carrière scientifique. Et comme on m'a proposé à cette époque de m'intéresser à un domaine de recherche qui démarrait justement à cette époque-là, qui était le refroidissement d'atomes par laser, ça m'a amusé de démarrer dans un nouveau sujet avec un petit groupe de gens très forts et très dynamiques. Et il y a toujours quelque chose d'excitant dans le démarrage d'une nouvelle discipline, d'un nouveau laboratoire avec des nouveaux copains pour faire la physique.
C'est important d'avoir une équipe vive et jeune comme ça.
Oui, avoir des gens qui s'entendent bien, qui discutent constamment. Il est certain que les premières années de la création d'une équipe et d'une nouvelle discipline, c'est quelque chose de tout à fait passionnant.
Ça vous oblige à vous reconvertir avec tous les guillemets qu'il faut, mais beaucoup, il faut apprendre à nouveau beaucoup de physique quand on change de sujet, comme vous l'avez fait, pour arriver à des choses aussi pointues, si je peux dire.
Oui, il faut en apprendre beaucoup, mais enfin, il faut se rendre compte.
C'est ça qui est passionnant, peut-être.
Oui, c'est ça qui est passionnant, mais il faut se rendre compte quand même que je n'ai pas changé non plus de 180 degrés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours des atomes avec des lasers. Mais certes, il y a un certain nombre de concepts nouveaux que j'ai dû apprendre complètement, oui, mais c'est ce qui est intéressant aussi.
Alors, vous allez continuer certainement encore le froid. Je ne vous demanderai pas quelle est la prochaine aventure. Vous viendrez nous la raconter, là, c'est fait.
Oui, peut-être.
C'était un extrait d'Archipel Science de Stéphane Delis-Georges et Anita Castiel, avec Alain Aspect, diffusé pour la première fois le 26 mars 1991.